Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Il était toujours en haut de l'affiche. Charles Aznavour, géant de la chanson française, est mort la nuit dernière à 94 ans. Il avait composé 1 millier de chansons, chanté en 5 langues, vendu plus de 100 millions de disques et tourné une 60aine de films. Hommage lui est rendu dans ce journal. Un nouvel accord commercial magnifique, c'est le qualificatif employé par Donald Trump après la signature avec le Mexique et le Canada du texte qui remplacera l'ALENA. Un camouflet pour le président bolivien Evo Morales. Selon la Cour internationale de justice, le Chili n'est pas tenu de négocier avec la Bolivie qui réclame à grands cris un accès à la mer. Et puis en France, la ministre de la Santé et des Solidarités lance une concertation citoyenne sur le financement de la dépendance. Elle invite les Français à proposer des solutions ou des initiatives permettant d'aider les personnes âgées à mieux vieillir. Et l'on commence ce journal avec la voix de Charles Aznavour, disparu la nuit dernière à 94 ans.
On a un métier difficile. Les gens ne savent pas à quel point on peut être désillusionné, malheureux pour un détail. Le petit détail, c'est important. C'est la raison pour laquelle je suis proche de la jeunesse. C'est beaucoup plus ça, la raison, qu'autre chose. J'étais traqueur, j'étais timide. Alors le trac a disparu quand je me suis rendu compte que le public venait pour moi. Mais la timidité a pris beaucoup plus de temps. Et ça fait peu de temps que je parle en scène. Avant, je ne parlais pas. J'allais d'une chanson à l'autre. Maintenant, je rigole sur la scène. Et puis en plus, j'aime travailler. Je suis un travailleur acharné. J'aime le travail.
Charles Aznavour, au micro de Mathieu Culeron en 2016. Monté sur les planches pour la première fois à 9 ans, il était encore sur scène il y a peu au Japon. C'était un infatigable ambassadeur de la chanson française à travers le monde. Et les hommages affluent de partout ce soir. Bonsoir Cécile de Kervès-Douai.
Bonsoir.
Nous allons d'abord revenir avec vous sur l'impressionnant parcours de Charles Aznavour. Car s'il est devenu un géant de la chanson, qui a vendu quelques 180 millions de disques, il avait beaucoup travaillé pour en arriver là.
Oui, Chanour Varinag Aznavourian, de son vrai nom, est né donc à Paris en 1924 de parents apatrides. Son père, géorgien, et sa mère, turque, ont fui le génocide arménien de 1915. Tous deux sont artistes et décident de rester à Paris plutôt que de partir aux États-Unis. C'est donc au milieu des comédiens et des chanteurs que Charles grandit. Très vite, après son certificat d'études, il va tenir des rôles au théâtre, à l'âge de 9 ans, oui, pour rapporter un peu d'argent à la famille. Et il prend alors le nom d'Aznavour. Rien ne le destine alors à être chanteur. L'adolescent le dit, il veut être acteur. Mais déjà, il voue une grande admiration à Maurice Chevalier et à Charles Trenet. Pendant la guerre, il rencontre le compositeur Pierre Roche, avec qui il forme un duo. Il se met donc à la chanson et écume les petits cabarets parisiens. Mais c'est en 1946 que sa carrière prend véritablement un tournant lorsqu'il rencontre Édith Piaf. Elle va le prendre sous son aile, elle va l'emmener aux États-Unis et elle va lui demander de faire de la chirurgie esthétique afin de faire rapetisser son nez. Et c'est ainsi que sa carrière démarre, mais ce n'est pas par la chanson qu'il se propulse.
Ça va pas du tout. Bah, t'as bonne mine derrière cette casserole. Alors tu devrais être devant un piano de concert, devant une salle bourrée à bloc, avec des spectateurs à genoux. Alors moi je te demande, qu'est-ce que tu fous ici?
Je peux pas être à deux endroits à la fois.
Oh, laisse-moi rigoler. Un virtuose international qui peut même pas se payer une bagnole, mais c'est le monde renversé, ça.
Ça va, ferme-la.
Ce film de François Truffaut, tiré sur le pianiste, est donc son premier grand succès en France, où il arrive donc après La tête contre les murs de Franju. Mais c'est son premier grand succès surtout aux États-Unis. La carrière d'Aznavour passera ainsi toujours de cinéma à la scène musicale et vice-versa. Une carrière musicale dont les débuts sont très laborieux, de l'aveu même de l'artiste. Rien ne plaît chez lui à cette époque, ni son physique, ni ses chansons, ni sa voix. Has no voice, comme le qualifient les Britanniques, écrit pourtant des chansons pour Piaf, pour Beko, mais personnellement, il fait d'abord et avant tout une carrière de cinéma.
Et vous l'évoquiez, Cécile, c'est sans aucun doute La tête contre les murs, le film de Franju en 1958, qui a lancé la carrière de Charles Aznavour au cinéma. Le réalisateur Jean-Pierre Mocky l'y avait entraîné comme acteur à ses côtés. Jean-Pierre Mocky.
J'ai connu Charles bien avant ce film parce qu'il était dans une situation difficile. Il faisait des entr'actes dans les théâtres. Je lui dis, écoute, moi, je trouve que tu es un grand acteur, tu pourrais devenir acteur comme Sinatra, etc. Donc, viens faire ce rôle de fou qui se suicide, etc. Il a été tellement émouvant dans le film qu'il a gagné l'étoile de cristal. Il m'a coiffé au poteau, moi, et Anouk Aimée, Paul Meurice et Pierre Brasseur. C'est lui qui a obtenu le prix. ça a été un départ fulgurant, et tout de suite après, j'ai tourné Les Dragueurs, où il avait le rôle principal, mais alors cette fois-là, c'était un film très commercial qui a fait le tour du monde. On était vraiment ensemble pratiquement tout le temps, jusqu'au jour où j'ai retourné un autre film encore avec lui, Les Vierges. De ça est née la suite de sa carrière, ça a été des films avec Lino Ventura, il a fait pas mal de choses. Moi, je l'avais utilisé comme Charlie Chaplin, c'est-à-dire pour moi, c'était le vagabond de Charlie Chaplin. C'était un personnage torturé, un petit bonhomme comme ça, et je le voyais dans des rôles de composition. Brusquement, quand il est devenu plus célèbre au point de vue musical, on lui a dit « tu es un jeune premier, les femmes t'adorent et tu dois jouer des jeunes premiers ». Alors il s'est lancé dans quelques films où il jouait le jeune premier. Il y a eu deux ou trois films qui n'ont pas marché, et finalement, on l'a pas repris dans son emploi premier, sauf Chabrol, et Truffaut l'a pris pour faire le pianiste, et l'autre, Chabrol l'a pris pour un rôle qui était tout à fait pour lui cette fois-là, c'était le fantôme du Chapelier. C'était un de mes grands amis, un des grands, grands amis que j'ai eu.
Jean-Pierre Mocky répondait à Florence Turme. Mais revenons à sa carrière musicale, Cécile.
Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que dans ce domaine, le succès est venu grâce à sa persévérance. Jamais il ne cesse d'écrire, ni d'enregistrer, ni de se produire. Mais le succès n'arrive finalement qu'en 1960, avec cette chanson qui raconte bien son parcours du combattant d'artiste.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès.
Je me voyais déjà marque enfin une consécration, mais 18 ans après son entrée dans le métier. Après ça, les succès vont s'enchaîner, car Charles Aznavour a écrit près de 1500 chansons, dont une centaine de tubes, des chansons qui ont marqué leur époque d'ailleurs, puisque certaines ont été censurées parce qu'elles relayaient des idées anarchistes, parce qu'elles parlaient de religion, et surtout parce qu'elles disaient le sexe et l'amour de manière quotidienne et sans voile. On peut citer par exemple la chanson Après l'amour. Aznavour semble pouvoir tout chanter. En 1972, comme ils disent, aborde ainsi l'homosexualité. Et puis progressivement, il va s'engager également sur des terrains plus politiques, après avoir fustigé ses déboires fiscaux avec l'administration fiscale devant la justice. Il marquera surtout les années 80 et 90 pour son engagement toujours indéfectible pour son pays d'origine, l'Arménie.
Cécile de Kervas-Doué. Ses chefs-d'œuvre, son timbre, son rayonnement unique lui survivront longtemps, déclare Emmanuel Macron en rendant hommage à Charles Aznavour. Profondément français, attaché viscéralement à ses racines arméniennes, reconnu dans le monde entier, écrit-il sur Twitter, Charles Aznavour aura accompagné les joies et les peines de 3 générations. Le chef de l'État se rend la semaine prochaine en Arménie, au sommet de la francophonie, et le chanteur devait intervenir à cette occasion. Nous retrouvons justement Constance Léon, la correspondante de RFI en Arménie. Ce soir, Constance, les Arméniens sont en deuil. Le Premier ministre arménien a d'ailleurs qualifié la mort de Charles Aznavour de perte énorme pour le monde entier.
Oui, à Erevan, c'est une ambiance de recueillement. Plus de 200 personnes sont réunies dans le centre-ville de la capitale, place Charles Aznavour, dans une ambiance de deuil autour de la pierre gravée à son nom, devant le cinéma de Moscou. Les gens viennent y déposer des fleurs, des bougies, les cafés environnants diffusent sa musique, de grands portraits de Charles Aznavour sont dressés tout autour de cette pierre commémorative. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian vient d'arriver également pour se recueillir aux côtés de l'ambassadeur de France Jonathan Lacoste, qui vient de déclarer « Nous sommes tous arméniens ». Ici à Erevan, même si les gens ne parlent pas tous le français, voire peu, ils connaissent quelques mots, ils connaissent quelques chansons de Charles Aznavour et tous connaissent son nom. Une femme d'une 60aine d'années tout à l'heure dans le centre de Erevan, rue Sarian, s'est mise à pleurer quand je lui ai annoncé la mort de Charles Aznavour, une réaction qui s'est répétée tout au long de ces commémorations. Alors Charles Aznavour, pour les Arméniens, c'est un symbole de cette diaspora arménienne étrangère, exilée à l'étranger. Charles Aznavour s'était illustré notamment en 1988 au moment du séisme à Gyumri, la seconde grande ville d'Arménie, avec sa chanson « Pour toi l'Arménie ». Il a été aussi le représentant permanent à l'ONU de ce pays. Les commémorations ici dans la capitale arméniennes vont continuer. Demain à 12h, heure d'Erevan, les personnes pourront se recueillir à la Fondation Charles Aznavour, dans les hauteurs du centre-ville et une marche commémorative partira de cette fondation pour rejoindre la place Charles Aznavour.
Et tout ça illustre, Constance, le lien entre Charles Aznavour et son pays d'origine, un lien extrêmement fort.
Ce lien, oui, effectivement, c'est un lien qui s'est tracé tout au long de sa carrière musicale avec justement donc cette chanson sur le séisme de Gyumri pour toi l'Arménie et également le fait qu'il a été ambassadeur d'Arménie en Suisse en 2008 et cette place donc qui a été inaugurée à Erevan en 2010 à son nom.
Merci Constance Léon, vous étiez en direct de la capitale arménienne, Yerevan. Deuil en Arménie donc, mais tristesse à travers le monde entier. Charles Aznavour était surnommé le Frank Sinatra français aux États-Unis. Il avait partagé la scène avec son ami Liza Minnelli. De grands artistes comme Ray Charles ou Fred Astaire avaient repris ses chansons et sa renommée était vraiment internationale, Maria Melkurdi.
Oui, c'était une véritable icône internationale. D'ailleurs, il revenait tout juste d'une tournée au Japon avant son décès. Ses prochains concerts étaient programmés en Ukraine à la fin du mois. 94 ans et toujours le même amour de la scène et ce lien spécial avec un public finalement universel. En 70 ans de carrière, le chanteur et comédien d'origine arménienne a composé pas moins de 1400 chansons. Il a chanté en 5 langues étrangères, en allemand notamment. Il interprète sa célèbre chanson « La Bohème ».
Es ist schon lange her, ihr kennt die Zeit nicht mehr mit euren 20 Jahren. Montmartre lag im Mai.
Il chante aussi en italien.
Sono tutti lì accanto a lei, da quando un grido li avvertì, sta per morire la mamma.
Vous avez reconnu la Mama, chanson écrite par Robert Gall. La langue étrangère qu'il maîtrise le mieux est sans doute l'anglais. Sa chanson She en 1972 séduit d'ailleurs plus à l'étranger qu'en France.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price.
Et figurez-vous que ce titre devient numéro 1 au hit parade au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande. En tout, Charles Aznavour a vendu 100 millions de disques à travers le monde. Il a donné des milliers de concerts dans 82 pays. Le chanteur suscite l'engouement au Maghreb, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique. Au milieu des années 50, Charles Aznavour rencontre le succès au Maroc. Il le prolonge à l'Olympia de Paris. Il enchaîne les tournées aux quatre coins du globe. Il triomphe notamment au Carnegie Hall, salle mythique de New York dans les années 60. Charles Aznavour est un véritable conquérant du public étranger et ça fonctionne bien, entre autres aux États-Unis. Vous l'avez dit, ses chansons sont reprises par Bob Dylan, par Ray Charles. Il a enregistré avec Frank Sinatra et influencé jusqu'à David Bowie. Charles Aznavour incarne aussi en quelque sorte la France métissée lui-même, est né de parents réfugiés arméniens. Mais finalement, il ne chantera qu'une seule chanson en arménien sur le tard avec sa fille.
Merci pour ce rapide tour du monde, Maria Melkurdi. Nous sommes maintenant en ligne avec la journaliste Véronique Mortaigne. Alors, vous avez travaillé au service culture du monde, vous avez souvent rencontré Charles Aznavour au cours de sa carrière. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, en particulier dans sa personnalité ?
Alors écoutez, c'était un guerrier Aznavour, hein. D'ailleurs on parlait à l'instant du Carnegie Hall, eh bien il avait collé ses affiches lui-même. Et une des premières fois où je l'ai rencontré, il m'a expliqué, il m'a donné une leçon pour un chanteur français éventuel maintenant, la nouvelle génération, en disant bah voilà, maintenant il faut aller chanter à l'étranger et pour ce faire, il faut accepter d'être une star par exemple en France et d'arriver, de passer la douane française avec tous les honneurs et d'arriver côté états-unien et de montrer son passeport et d'être mis sur le côté parce qu'on va être fouillé, parce qu'on comprend pas d'où on vient, etc. et que personne ne vous connaît. Et c'est ça la conquête d'un marché, de la gloire, etc. Ce qui était très important pour lui parce que effectivement, comme vous l'avez dit, c'était un fils d'immigré, il tenait beaucoup à cela, en même temps qu'il tenait beaucoup à s'appeler Aznavour et non Aznavourian, puisqu'il avait pris la nationalité française, son nom avait changé, et qu'il était arménien de souche, mais totalement français. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a représenté partout dans le monde.
Et alors justement, est-ce qu'il a su faire passer ce métissage en étant justement artiste issu de l'immigration ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a, au-delà de son attachement bien sûr à l'Arménie, est-ce que ça s'est retrouvé aussi dans ses chansons ?
Alors, il était attaché à l'Arménie, et pas seulement à l'Arménie, il était attaché parce que son père et sa mère venaient de Géorgie, de Turquie, d'origine arménienne, donc c'était une histoire un peu plus vaste. Et il voulait partir, d'ailleurs, il voulait émigrer aux États-Unis, mais ils sont arrêtés à Paris. Donc c'était une vraie histoire de cheminement à travers le monde, dans des périodes dangereuses, génocidaires, etc. Donc il était très attaché à ces valeurs-là, c'est-à-dire à montrer qu'on pouvait réussir. Et puis, dans ses chansons, dans sa musique, ce que l'on retrouve, c'est tout cet Orient, hein, parce que, alors moi j'étais allée chez lui, par exemple, il avait une maison dans le Luberon, et il avait des instruments de musique étrangers, hein, si je puis dire, donc des canounes, du bouzouki, etc. Et ça se retrouve bien évidemment dans toutes les chansons qu'il a composées ou qu'il a co-composées, cette espèce de nostalgie qu'il a mêlée avec du jazz, cette sorte de vague à l'âme fêtard, hein, qui est parfaitement qui vient parfaitement de ces régions Moyen-Orientales, Europe de l'Est, etc., qu'il avait totalement intégré. Et quand il compose pour Johnny Hallyday, Retiens la nuit, eh bien, moi, je trouve dans cette chanson, même dans cette chanson qui est la symbole des yéyés, des racines qui sont mélangées. Mais la chanson française l'a toujours été, d'ailleurs, hein, puisque beaucoup de nos grands chanteurs venaient d'ailleurs, hein, que ce soit Dalida, Guy Béard, Claude François.
Et aujourd'hui, alors Véronique Mortaigne, est-ce qu'il y a à vos yeux des héritiers dignes de Charles Aznavour ?
Oui, bien sûr, pour deux raisons. Parce que d'abord, Aznavour était un comédien, donc il a montré qu'on pouvait jouer et jouer comme un acteur sur des mots parfois très crus. D'ailleurs, il se faisait disputer par Edith Piaf, parce qu'il écrivait des choses comme « je vais te mordre l'épaule », etc. Et il trouvait que c'était trop. Donc il avait cette précision presque chirurgicale dans la description physique, hein, de l'acte d'amour, notamment. Il a été pionnier sur les transsexuels, les queers, etc. Et donc ça, je pense que la nouvelle génération l'a appris. Et a appris d'Aznavour à avoir cette précision de langage, que ce soit des rappeurs, que ce soit Grand Corps Malade, qui était assez lié à lui, que ce soit des jeunes chanteuses, même comme Chris, qui en fait retrouvent cette espèce de précision dans la langue et cette manière de travailler sans phare, on va dire.
Donc la relève est assurée. Merci beaucoup Véronique Mortaigne. On évoquera bien sûr encore Charles Aznavour sur cette antenne, notamment ce soir dans la dispute avec Arnaud Laporte. Donald Trump l'affirme, c'est l'accord le plus important de l'histoire américaine. Grande satisfaction donc du président américain, fier d'avoir obtenu à la dernière minute l'accord du Canada pour une révision de l'ALENA, le traité de libre-échange nord-américain. Ce nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada évite les droits de douane, mais rend plus difficile pour les constructeurs automobiles mondiaux de produire des voitures à moindre coût au Mexique. Donald Trump veut le signer d'ici fin novembre. Il vient de donner une conférence de presse à Washington. Écoutez-le.
J'ai l'honneur de vous annoncer que nous sommes parvenus avec succès à un nouvel accord qui remplacera l'ALENA. Ce nouvel accord commercial a été scellé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique et s'appellera IUMC. J'ai souvent répété que l'ALENA était le pire des accords. Depuis son adoption, les États-Unis ont perdu beaucoup d'argent, près de 2 000 milliards de dollars. Nous avons également perdu de nombreux emplois, plus de 4 millions. Pendant la campagne, j'ai promis de renégocier l'ALENA et aujourd'hui, nous avons tenu cette promesse.
Le président américain Donald Trump, la Cour internationale de justice saisie pour résoudre un conflit territorial centenaire, vient de donner raison au Chili face à la Bolivie. La Bolivie n'a pas d'accès à la mer et récupérer un accès maritime est l'une des batailles de président Evo Morales qui espérait se refaire une popularité, d'où cette saisine de la Cour internationale de justice. Mais l'arrêt rendu déçoit les espoirs du président bolivien Pierre Benazet.
Effectivement, je vous cite la phrase de la Cour, « La République du Chili ne s'est pas juridiquement obligée à négocier un accès souverain à l'océan Pacifique pour l'État plurinational de Bolivie. C'est la réponse formelle de la CIJ à cette plainte déposée en avril 2013 par la Bolivie. Pendant près d'une heure et demie, le président de la Cour internationale de justice a égrené tous les arguments présentés en 2013 par la Bolivie pour demander que le Chili soit obligé de revenir s'asseoir à la table des négociations. Un par un, le juge président Abdulkawi Youssouf a rejeté les 9 arguments boliviens avant de conclure qu'aucun d'entre eux n'obligeait le Chili à négocier. Un arrêt pris à la majorité, 12 juges contre 3. Le président bolivien Evo Morales, vous en parliez, avait personnellement fait le déplacement à La Haye pour assister à l'arrêt de la Cour, signe de sa certitude de tenir gain de cause. C'est d'autant plus pour lui la douche froide qu'il semblait avoir fondé beaucoup d'espoir sur cette affaire pour se mettre en lice pour un 4e mandat présidentiel. La stratégie bolivienne avait pourtant pu paraître relativement intelligente en demandant uniquement à la Cour d'obliger le Chili à négocier et non à lui rendre l'accès à la mer perdue à l'issue de la guerre du Pacifique 1879-1883. Depuis le traité de paix de 1904, la Bolivie a fréquemment cherché à briser son enclavement territorial en mettant en particulier en avant le frein à sa croissance économique que la perte de son littoral pacifique représente à ses yeux.
Pierre Benazet, retour en France avec ce rapport sur le taux d'emploi des seniors. Même s'il a augmenté ces dernières années, il reste nettement inférieur au reste des pays de l'Union européenne, notamment sur la tranche des 60-64 ans, et ce malgré le recul de l'âge de départ à la retraite, un phénomène préoccupant que les politiques publiques des dernières années n'ont pas vraiment réussi à enrayer. Le rapport de France Stratégie a été remis ce matin au haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, car le sort des seniors dans l'emploi a de grosses conséquences sur leur future retraite, et donc leur choix dans l'optique d'une remise à plat systémique du régime des retraites en France, une réforme sur laquelle travaille le gouvernement.
Oui, et ce rapport dresse un constat très détaillé des conditions actuelles d'emploi des seniors avec cette particularité bien française, un faible taux d'emploi après 60 ans, malgré des progrès ces dernières années. 30% seulement des 60-65 ans restent dans l'emploi en France contre 70% parfois dans des pays comme la Suède. Plusieurs explications à cela. Près d'un tiers des personnes qui partent à la retraite dès 60 ans le font parce qu'elles ne sont plus satisfaites de leurs conditions de travail. La même proportion choisit de partir à cause de problèmes de santé. Et puis, le regard des entreprises sur les salariés seniors est très négatif en France, comme l'explique Emmanuelle Prouet, co-rapporteuse.
En France, quand même, on a un poids des représentations négatives dans l'emploi, dans le travail et dans les entreprises qui semblent jouer énormément. Donc on est passé de plus en plus à des incitations au maintien dans l'emploi qui étaient ciblées sur les seniors, à des politiques plus générales où on essaye de prendre en compte l'ensemble de la carrière des salariés pour faciliter le maintien dans l'emploi. Mais par rapport à d'autres pays, on est encore assez faible sur ces sujets-là, notamment parce que les représentations négatives qui pèsent sur les travailleurs les plus âgés sont encore très fortes en France.
Et de fait, plus de 75% des managers interrogés considèrent l'âge comme un frein à l'embauche.
Et qui alors reste dans l'emploi après 60 ans ?
Alors d'abord ceux qui n'ont pas le choix, ceux qui ont commencé par exemple leur carrière tard ou qui ont eu des trajectoires heurtées. Et puis ceux aussi qui se sentent tout simplement bien dans leur travail, comme le note l'autre rapporteur Julien Rousselon.
Dans ce domaine qui est éminemment qualitatif et dont on pourrait dire qu'il est difficile à objectiver, nous avons quand même fait référence dans le rapport à des données Eurostat d'enquête internationale sur la satisfaction vis-à-vis du travail. Et on voit qu'il y a quand même une assez forte corrélation entre des degrés élevés de satisfaction dans la vie professionnelle et un taux d'emploi des seniors élevé. Ce sont les pays d'Europe du Nord, la Suisse, etc., qui se détachent vraiment de ces données d'enquête qui sont effectuées à méthodologie constante et en ligne.
D'où l'intérêt pour les entreprises françaises de vraiment investir dans des politiques de gestion de carrière, car c'est aussi sur ce critère de la qualité de vie au travail en fin de carrière que le choix de partir ou de rester dans l'emploi peut se faire de façon libre.
Anne-Laure Chouin. La ministre de la Santé et des Solidarités lance le débat public sur la dépendance. Elle annonce la mise en place d'une plateforme en ligne intitulée « Comment mieux prendre soin de nos aînés ?» pour recueillir les avis et idées des Français sur la prise en charge des personnes âgées. Des groupes de travail et des forums de professionnels en région sont également organisés pour alimenter la réflexion du gouvernement en vue d'une loi sur le sujet qui pourrait être votée fin 2019. Catherine Pétillon, selon une étude de la Mutualité française, les dépenses liées à la prise en charge des personnes en perte d'autonomie représentent chaque année 30 milliards d'euros pour les personnes âgées et leurs familles.
Ces sommes recouvrent non seulement les frais de santé, mais aussi l'hébergement et tout ce qui rend possible les actes de la vie quotidienne. À 79%, ces dépenses sont financées par la solidarité nationale, c'est-à-dire en pratique via la sécurité sociale, l'État ou encore les départements avec l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Les 6,3 milliards d'euros restants, eux, sont à la charge des ménages. C'est ce qu'on appelle précisément le reste à charge. Et pour l'essentiel, 3,8 milliards d'euros, cela concerne les frais d'hébergement. Car vivre en EHPAD coûte cher. Pour les personnes les plus sévèrement dépendantes, un mois d'hébergement coûte en moyenne 2 450 euros. Mais ce montant, souligne l'étude, varie énormément selon les territoires. De 2 050 euros dans la Meuse, ce coût dépasse les 3 500 euros à Paris et 3 800 euros en Guyane. Et une fois prise en compte les différentes aides publiques, la somme à la charge des résidents varie elle aussi d'un département à l'autre. Elle va de 1 600 euros par mois dans la Meuse à plus de 3 100 euros par mois à Paris ou dans les Hauts-de-Seine. De nombreuses personnes se retrouvent ainsi avec un reste à charge supérieur à leurs revenus disponibles. Par exemple, en Essonne, pour financer un logement pendant 5 ans, un résident d'EHPAD doit débourser plus de 150 000 euros au-delà des aides publiques, un montant qui dépasse de près de 47 000 euros le niveau de vie médian des retraités. La situation est plus simple quand les personnes arrivent à se maintenir à domicile, mais au prix d'une importante intervention des aidants familiaux ou informels, alerte l'étude. La pression démographique risque d'accroître les difficultés de financement et c'est à cet enjeu que devra répondre la réforme annoncée par Emmanuel Macron.
Catherine Pétillon conclut ce journal avec le prix Nobel de médecine. Lui est né en 1948 au Texas, son confrère en 1942 à Tokyo. Et c'est au milieu des années 90 que ces deux chercheurs ont chacun de leur côté développé les connaissances qui leur valent aujourd'hui le prix Nobel. James Allison et Tasuku Honjo ont fait avancer l'immunothérapie contre le cancer. Ces chercheurs américains et japonais ont travaillé sur les protéines qui empêchent notre organisme de combattre avec efficacité les tumeurs. Grâce à leurs recherches fondamentales, on a pu développer des médicaments pour relancer le système immunitaire dans le cas de certains cancers. Écoutez Sébastien Amigorena, il dirige le centre d'immunothérapie de l'Institut Curie.
Ils ont découvert des régulateurs négatifs de l'immunité, c'est-à-dire des molécules qui inhibent le système immunitaire. Et ils ont découvert que quand on bloquait ces régulateurs négatifs, on augmentait les réponses immunitaires antitumorales et on permettait aux patients de rejeter leurs propres tumeurs, donc de se guérir eux-mêmes de leur propre cancer.
On peut les bloquer comment alors? En donnant des médicaments, en faisant quoi?
Oui, on les bloque en donnant des médicaments qui sont en fait des anticorps, qui sont aussi produits par le système immunitaire, mais là on les produit de façon artificielle grâce à un autre prix Nobel qui a découvert les anticorps qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Et on peut choisir un petit peu contre quoi ils vont être dirigés. Donc là on prend des anticorps qui sont spécifiques de ces deux inhibiteurs du système immunitaire, c'était la 4 ou PD-1, et qui les bloquent de façon très très spécifique.
Est-ce que ça marche dans tous les types de cancers?
Non, ça marche seulement dans le cancer du poumon métastatique, le mélanome métastatique et quelques autres. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'étendre le type de cancer dans lequel on a des réponses et aussi d'augmenter le nombre de patients qui répondent, parce que dans le mélanome, par exemple, le traitement n'est efficace que dans entre 30 et 40% des patients. Les autres ne répondent pas et on ne comprend pas encore très bien pourquoi. C'est vraiment un exemple, j'allais dire magnifique, je sais pas quoi. C'est un très bel exemple de recherche fondamentale et d'arriver ensuite à guérir des patients. Quand Jim Allison et Anjo travaillaient sur ces molécules, il n'y avait aucune application en vue. C'était vraiment une recherche fondamentale, cognitive. Et voir que 20 ans après, on traite des patients qui sont en phase terminale pour lesquels on n'a aucun autre traitement et qu'on les sauve pour des années et des années, c'est vraiment très très satisfaisant pour un chercheur.
Propos recueillis par Tara Schlegel. Demain, mardi, le temps sera très nuageux au nord de la Loire, plus lumineux au sud. Le matin, il fera de 0 à 16 degrés. L'après-midi, 11 à 24 du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.